monsieur, bonjour. Nous allons parler d'école durant cette émission, d'école et de jeunes, mais on va sortir aussi des murs de l'école en suivant le parcours passionnant de notre invité du jour. Jean-François Lanvin, bonjour.
Bonjour.
J'ai envie de vous présenter, de vous introduire par cette phrase du poète Machado qui dit « Il n'y a pas de chemin, on fait le chemin en marchant ». J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez depuis que vous êtes entré dans la vie professionnelle.
Oui, tout à fait. Je pense que j'ai un parcours un peu atypique, où mon but c'était justement de proposer autre chose aux jeunes. Donc moi je suis professeur de religion de formation, en ayant fait le choix assez rapidement de donner cours dans les écoles dites difficiles, dans l'enseignement professionnel, toute une série de quartiers au point de départ dans le Hainaut et ensuite sur Bruxelles.
On va reprendre ça depuis le début, hein, pour raconter votre parcours. Vous êtes encore assez jeune, vous avez 31 ans, voilà, et vous allez voir qu'il a déjà un parcours bien rempli. C'est assez stupéfiant de vous entendre raconter votre histoire. Alors, donc vous êtes d'origine de Soigny, je crois.
Ennuyé, Sonégien.
Voilà, Sonégien. Et vous avez un parcours scolaire qu'on pourrait dire tout à fait classique.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait le collège Saint-Vincent, j'ai fait mes latines dans une chouette école, avec simplement, en sortant des secondaires, l'envie d'enseigner.
Donc déjà, d'avoir des contacts avec les jeunes à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Mais peut-être pas spécialement les jeunes en difficulté.
Non, pas du tout. Au point de départ, donc, j'ai fait une formation de... un régenda littéraire, donc français religion, en voulant donner cours, peut-être au point de départ de manière classique, sans savoir exactement ce que ça voulait dire. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques chouettes rencontres, notamment celle de l'abbé Piton, qui était mon professeur de religion à l'école normale de Brun-le-Comte, et qui m'a un peu montré la richesse du cours de religion et de ce qu'on pouvait en faire. Et donc j'ai décidé ensuite d'aller à... ISSR à Tournai pour faire un graduat en sciences religieuses. Et c'est là qu'un peu que la grande aventure a commencé.
Durant des stages, c'est ça?
Oui, justement, j'ai eu la chance dans cette école tournaisienne, siéger au séminaire de Tournai, où j'ai notamment eu Mgr Arpini comme professeur, de faire beaucoup de stages, beaucoup plus que si j'avais suivi un graduat classique dans une école normale. Et de faire des stages notamment dans des écoles de tout niveau. Et c'est là que j'ai eu un premier coup de cœur pour l'enseignement professionnel.
Et donc, quand vous terminez vos études, vous faites le choix alors d'aller dans l'enseignement professionnel.
Oui, tout à fait. Alors qu'on me proposait les bien belles écoles de ma région, sur le Borinage ou sur la région du centre, j'avais senti durant les stages que c'est ce public-là qui m'intéressait, donc c'est ces jeunes qui sont un peu en rupture, en décrochage. Je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire avec eux, mais je savais que je voulais aller avec eux.
C'est quand même un choix risqué quand on est jeune enseignant fraîchement diplômé.
Je ne me suis jamais posé la question, et encore aujourd'hui, quand je prends du recul, c'est vrai que j'ai travaillé avec pas mal de publics qu'on peut considérer parfois comme à risque, mais au fait, quand on est dedans... on se rend compte que la réalité est tout autre.
Donc vous commencez comme professeur en section professionnelle à Mons, je pense.
Oui, à Saint-Luc à Mons.
Et c'est là qu'il y a un déclic qui se fait.
Déclic, c'est notamment une fameuse phrase que j'avais déjà entendue durant mes stages, et qui là se répète de plus en plus, c'est « Monsieur, j'ai 15 ans, je suis un con, ma vie est finie parce que je suis en professionnel. »
Je suis tombé en professionnel.
Oui, je suis tombé en professionnel. Ouais. Et donc, et là c'était un choc parce qu'en plus moi qui viens entre guillemets du haut du panier en termes de formation, je me rends compte que ces jeunes, je dis souvent que les jeunes avec qui j'ai travaillé, j'étais peut-être le premier entre guillemets à les mépriser quand j'étais ado. Quand on est en latine, vous pensez ou on vous formate à faire comprendre que vous êtes l'élite et que ceux qui n'y sont pas sont moins bien que vous. Et puis donc il y a toute une déconstruction que j'ai dû faire ou qui s'est faite automatiquement chez moi.
Qui s'est peut-être faite très vite une fois que vous avez été en contact avec eux.
Oui, parce qu'au final on se rend compte que la différence entre ces jeunes, elle est surtout au niveau du langage. Je pense qu'un jeune reste un jeune avec souvent les mêmes questions, les mêmes peurs, les mêmes rêves, les mêmes angoisses. Ce qui différencie la manière de l'exprimer et ce côté justement moins robotisé qu'on trouve chez ces jeunes qui sont beaucoup plus vrais.
Donc vous avez essayé de déceler leur potentiel, leur qualité, et de les mettre en valeur alors.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est le plus difficile, j'en pense, chez quelqu'un, jeune comme adulte. C'est justement de travailler sur la confiance en soi. Je pense qu'on a tous, moi le premier, toute une série de blocages. Et justement, c'est de pouvoir être confronté à ces blocages et se rendre compte que c'est possible de les surmonter. Moi, je dis souvent, la montagne n'est jamais aussi dure à gravir que quand on est encore au bas. Mmh. Une fois qu'on est dedans, on se dit, tiens, c'est quand même plus facile que je le pensais.
Et donc, vous commencez ce cours de religion et vous vous trouvez dans des écoles où peut-être le cours de religion n'est pas le cours préféré. Comment est-ce que vous abordez ce cours avec les élèves alors ?
Disons que j'avais face à moi beaucoup d'élèves, hein, en tout cas sur la région de Mons. Après, quand jusqu'à la Providence sur Andex, c'est encore autre chose. Mais au point de départ, pour qui l'école, déjà, à la base, n'est pas du tout la tasse de thé. Des jeunes qui sont justement, qu'on a dégoûté de l'école, dégoûté de rester assis sur un banc, de prendre une feuille, d'écrire, etc. Et donc, que ce soit le cours de religion ou un autre, c'est pas spécialement plus simple. Le tout, c'est de leur montrer que leur présence a du sens et qu'on peut y donner du sens.
Et qu'est-ce que vous leur proposez alors, dans ce cours de religion ?
Au point de départ, je m'étais dit, je ne veux pas donner le cours de manière classique et qui ne fonctionne pas énormément. Je vais d'abord attendre, je vais d'abord un peu temporiser, faire leur connaissance, les écouter, et après on verra. Et donc c'était ma méthode. Donc je savais ce que je ne voulais pas faire au point de départ, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc la première partie de l'année, enfin en tout cas les premiers mois, c'était beaucoup d'écoute. Et cette écoute s'est révélée être instructive avec beaucoup de jeunes qui me disaient « Nous, monsieur, on veut prouver. On veut prouver quelque chose de positif. » Et c'est là que j'ai dit « Voilà, on va essayer de faire ensemble la révolution positive. »
Et c'était le début d'une grande aventure alors.
C'était le début d'une superbe aventure.
Et ça a commencé comment alors cette aventure
Sur la seule idée que j'avais. J'avais une seule idée, c'était de...
Mais ce fut la bonne.
La bonne, en tout cas le point de départ, c'était de permettre à ces jeunes de pouvoir rencontrer des personnes. Et au point de départ, j'avais deux axes. Rencontrer tout d'abord une personne en décrochage, en rupture, donc... En l'occurrence, j'avais en tête une personne sans domicile, sans abri. Et alors, l'autre côté, plutôt une personnalité. Et donc, je me suis mis un peu à la recherche de ce type de profil qui pourrait être intéressé pour rencontrer mes élèves. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le directeur d'un centre d'accueil, la Maison Saint-Paul à Mons, M. Marlière, qui nous a proposé de venir avec une classe un petit peu découvrir son centre d'accueil.
Voilà, eh bien on va garder le suspense pour après la pause musicale puisqu'on va vous proposer maintenant d'écouter Pierre Rapsat qui nous chante Ensemble. C'est une chanson qui vous est chère et vous pourrez peut-être nous en parler après. A tout de suite.
Ensemble, ensemble, même si l'on est différent. Et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don. Vivre les mêmes émotions, avoir le cœur qui tremble. Sur cette étrange map monde, où le plus beau côtoie l'immonde, pour se défendre de tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre, pour se comprendre. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va plus vite, il y a autant de choses tristes autour de nous. Dans les images qu'on nous propose, autant de gens qui s'opposent et de portes closes. Mais ensemble, ensemble, découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes
Branchez-vous sur l'essentiel.
L'essentiel.
Voilà, Pierre Rapsat, ensemble, on revient ensemble avec, avec Jean-François Lanvinge, qui, je le rappelle, est enseignant et qui a un parcours dans l'enseignement professionnel, qui a choisi d'enseigner dans l'enseignement professionnel. Alors, on en était donc dans l'école à Mons, où vous proposez à vos élèves d'aller visiter une maison d'accueil, un centre de jour pour sans-abri.
Tout à fait, moi, ma démarche était assez simple au point de départ, même si après... On s'en était éloigné, on était beaucoup plus loin dans les démarches. C'était simplement qu'ils puissent écouter des gens qui ont décroché et ils se rendent compte qu'il fallait faire attention et qu'on décrochait assez facilement. C'était un peu basique comme idée. Et donc, on se rend là-bas et là, assez rapidement, mes élèves ont été très surpris par l'état des lieux et la précarité qui existait. Et c'est là que c'était un mardi après-midi, c'est vraiment le tournant de ma carrière professionnelle. Un mardi après-midi, un de mes élèves, Jordi, 18 ans, donc a déjà, en troisième, pas mal approfondi la chose, dit au directeur, écoutez, moi, ce lieu me touche, et surtout voir un peu l'état des lieux. Si je peux donner un petit coup de main, je le ferai. Et donc, il propose de revenir le lendemain, donner un petit coup de tournevis sur les prises de courant, vu qu'il y a de l'électricité. Moi, sur le coup, je pense que c'est une parole un peu en l'air, forme de sincérité, mais bon, comme beaucoup d'ados peuvent les avoir, une impulsion qui en restera là, mais pas du tout. Jordi en parlera avec d'autres de la classe, et avec d'autres classes que j'avais également en option menuiserie. Et on trouvant en me disant, voilà, monsieur, ça fait quelques semaines, mois qu'on se connaît, dites qu'il faut arrêter de se plaindre de notre situation, de nos difficultés dans l'option avec nos enseignants, qu'il faut un peu se rebeller positivement. Et donc c'est comme ça qu'il me propose de restaurer la maison Saint-Paul.
Rien que ça.
Rien que ça, et c'est comme ça que l'aventure pendant plusieurs mois commence, mercredi après-midi, les week-ends, durant les vacances.
Et parce que ça ne se fera pas pendant les heures de cours.
Non, c'était évidemment assez compliqué, ce type de projet est assez compliqué à mettre en place dans le cadre de l'enseignement pour les raisons classiques de programme, d'assurance, d'homologation et d'autres choses de ce genre. Et donc c'est comme ça que la belle aventure commence, que tout un groupe de jeunes se crée. Et puis dans une école, quand un professeur donne un peu cours différemment et ouvre une porte, les jeunes ont tendance à vouloir s'y infiltrer, notamment ce type de jeunes. C'est comme ça que les idées foisonnent. Et une classe me propose d'aller faire des animations pour les enfants malades à l'hôpital Saint-Joseph qui était près de l'école, une autre de faire un journal pour prouver qu'il y avait des choses à dire. Encore une autre d'organiser des événements pour financer des projets plus humanitaires. C'est comme ça que la plupart de mes classes commencent à se mettre en route. Et
donc
en
ça commence par consacrer vos heures de loisirs et les leurs aussi, donc à aller restaurer cette maison.
Ah oui,
cette
oui mes heures de loisirs, mes premiers salaires, j'ai dit tout y est passé. oui, mais comme je dis tout à l'heure, et en même temps, avec le recul, on peut se dire tout, c'est étonnant. Quand ça vient, ça se fait un peu naturellement. C'est après qu'on se dit, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai investi beaucoup, surtout du temps là-dedans. Mais non, je pense que c'est venu naturellement par les chouettes rencontres que j'ai pu y faire. Et c'est comme ça que je crée mon association, donc Génération Nouvelle, pour justement mettre quand même un petit cadre à tous ces projets, essayer, vu qu'il y a quand même un peu d'argent qui circulait, essayer d'un petit peu structurer les différentes démarches. Mmh. Et c'est comme ça que Génération Nouvelle voit le jour avec... Une optique est très simple, c'est justement faire une rupture entre le scolaire et l'extrascolaire et donner du sens un peu aux différents apprentissages.
Oui, parce que vous avez l'impression que dans l'enseignement particulièrement technique et professionnel, les jeunes n'ont pas l'impression de trouver une place dans la société, ils n'ont pas l'impression d'être attendus, ils ne pensent pas qu'ils peuvent être utiles à la société.
Malheureusement, aujourd'hui, c'est, je pense qu'on n'en parle suffisamment dans les médias, ce sont quand même souvent des options d'échec au point de départ. Je veux dire, rares, malheureusement, sont les jeunes qui font ça par choix et par envie. Donc, ils y vont après avoir raté différentes options. Et donc, je dis souvent en rigolant, hein, tu n'aimes pas les maths, tu n'es pas bon en langue, donc tu es bon en menuiserie. C'est un peu la logique de l'enseignement.
Ce qui n'est pas toujours vrai.
Aujourd'hui, mais justement. Voilà, donc, oui. Il y a certains chiffres qui sont là, hein, dans certains établissements que j'ai pu fréquenter, sur une classe d'une vingtaine d'élèves, électricité, menuiserie, mécanique, les trois quarts, si pas plus, n'aiment pas le bois. Ils sont là parce que justement, comme je dis tout à l'heure, ils n'aiment pas les maths.
Ils n'ont pas le choix non plus. Quoi.
Donc, voilà. Difficile à ce moment-là de se mobiliser.
Mm-hmm. Voilà, donc ça c'est l'aventure à Mons, c'est le tournant de votre carrière, comme vous le disiez, mais vous n'allez pas rester à Mons, vous allez changer de ville, changer d'école.
Oui, j'étais dans une grande école qui se prêtait peut-être pas trop à ce type de démarche. Et en même temps, je tombe d'ailleurs sur une émission de l'RTBF, un peu sur les quartiers bruxellois. Et je suis un petit peu touché par ces jeunes aussi qui disent, ben voilà, on vient des quartiers poubelles, des écoles pourries, on n'a pas d'avenir, personne ne veut nous donner cours. Et c'est comme ça que ça me touche. Je me dis, tiens, ben, pourquoi pas également avec ce type de jeunes. Et là, j'envoie mon CV dans une école qui, à l'époque, était un peu connue, qui était l'Institut de la Providence à Anderlecht, l'école de la dernière chance. Et c'est comme ça que je commence une grande aventure à la Providence, mais évidemment avec des paramètres que je ne connaissais pas, que j'ai dû découvrir, notamment là, une autre culture, la culture maghrébine, la foi musulmane, donc c'était encore autre chose.
Un deuxième grand chapitre qui commence et qu'on évoque après notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter Gilbert Lafaye, qui leur dira, qui te...
Picasso, qui te dira la terre, la rose et le jasmin, le sable du désert qui coule dans la main. Tu n'as jamais connu que ce coin de ghetto, les dealers de la rue, les bagarres au couteau. Qui te dira te dira l'amour, le pollen et le vent, le bruit de l'eau qui court et l'oiseau d'un instant. Tu n'as vu de la vie que des bidons rouillés, la misère et l'envie, une cité bousillée, un carré d'herbe jaune pour apprendre à rêver, un monde de pylônes et de tuyaux crevés. Qui te dira, qui te dira, qui te dira, qui te dira, qui te dira la lune.
Gilbert Lafaye, qui te dira. Jean-François Lanvin, voilà, on en est au chapitre où vous arrivez à Bruxelles et vous choisissez à nouveau une école difficile, qui est l'école de la Providence. Vous m'avez dit un jour, je suis le seul professeur qui ait posé sa candidature à la Providence.
Oui, c'est en tout cas comme ça que j'ai été accueilli par la directrice de l'époque. Mais la Providence, c'est un fantastique lieu, hein, où j'ai tout appris, où on m'a tout appris, qui est une école qui fait le choix, justement, là d'accueillir ces élèves qui sont en rupture, qui ont été renvoyés.
C'est une école qui ne refuse personne. Hein,
bien sûr, qui accueille jusque. C'est vraiment l'école de l'accueil par excellence. Donc le projet pédagogique est basé là-dessus. Aussi bien des primo-arrivants, des jeunes placés par la justice, qui rentrent, qui sortent, des jeunes sans papier, enfin, vraiment, tout type de public, les jeunes filles qui portent le foulard, qui ne sont pas acceptées ailleurs. Enfin, vraiment un melting pot. assez incroyable.
Et donc vous débarquez là, vous êtes engagé avant l'été, vous signez votre contrat, et alors vous allez passer vos vacances à faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez dire bonjour à tout le quartier.
Oui, c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose qui ouais, aujourd'hui, je ne sais pas si je le referais. En tout cas, je le referais certainement. Tellement ça m'a plu, mais en tout cas, c'était une démarche qui était assez étonnante.
Comment vous est venue l'idée?
Justement, je pense que c'était instantané. C'était pas calculé. Je vais dire, c'était l'envie de... Enfin, je pense que au point de départ, j'ai vite compris que pour réussir à la Providence, surtout que j'avais quand même une mission de la part de la direction qui était d'essayer d'ouvrir l'école sur le quartier pour essayer justement de décloisonner parce que c'était pas simple. Le quartier de Kureghem n'est pas des plus simples non plus. C'était un peu de décloisonner et donc d'ouvrir. Et bon, pour ouvrir, il faut connaître. Et là, j'ai rapidement compris que je ne connaissais pas les gens et surtout l'historique de ce quartier, les mentalités et les réalités.
Et donc, vous êtes allé sonner.
Et donc, j'ai sonné à beaucoup, 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 beaucoup de portes, des privés, des associatifs, du politique. Je veux dire, tout le monde était un petit peu passé. Les gens étaient super surpris par ma démarche. Donc, avec beaucoup de sympathie. Pareil, comme à Saint-Luc, je ne suis pas arrivé à la Providence en septembre avec un programme de cours et des choses très simples qui étaient prêtes, mais pas mal de contacts de gens qui potentiellement étaient prêts à m'aider.
Et donc là, la Providence, c'est le début d'une nouvelle aventure avec les élèves qui a duré combien de temps?
7 ans.
7 ans à la Providence.
7 ans, vraiment, cette magnifique année où justement le but c'était vraiment de faire autre chose et de partir avec des jeunes qui étaient parfois déchiquetés par la vie et d'essayer de simplement leur permettre de remettre un genou à terre et peut-être de se relever à un moment.
Et aujourd'hui, vous n'êtes plus à la Providence. Aujourd'hui, vous avez lancé un club qui s'appelle Tous à bord et qui justement essaye de rassembler différents publics.
Oui, mais c'est un projet, un club qui est dans la lignée évidemment de l'association Génération Nouvelle. Rapidement, d'où la chanson tout à l'heure de Rapsat Ensemble, j'ai voulu décloisonner, comme je vous ai dit, école et parascolaire, mais surtout aussi les gens et les jeunes. Parce que je pense que, quelle que soit sa culture, quel que soit son niveau scolaire, on a beaucoup de choses à partager. Et donc, j'ai mis en place, via un concept qui s'appelle l'école de la vie, toute une série de projets qui permettent à des gens différents de pouvoir se rencontrer et apprendre à se découvrir. Et le Club Tous à bord, depuis maintenant 5 ans, est un petit peu l'outil de base, avec un concept qui est assez incroyable, où c'est la prise en charge de personnes valides par des moins valides. Donc une inversion du social traditionnel, avec une quinzaine d'animateurs qui ont tous un handicap physique, fauteuil roulant, non ou malvoyant, et qui prennent en charge des personnes valides pour une découverte d'un grand monde qui est ce monde de la différence. Et à partir de cette première démarche, mon but justement, une fois qu'on a décloisonné une première démarche, j'essaie de permettre aux gens de pouvoir en rencontrer d'autres.
Et donc c'est notamment des défis sportifs que vous relevez avec tout le monde. Voilà, malheureusement on arrive déjà au bout de cette émission. On aura l'occasion de vous retrouver dans une prochaine émission pour revenir plus en détail sur ce Club Tous à bord. En attendant, j'invite nos éditeurs à taper Jean-François Lanvin sur Google ou sur YouTube et ils vont voir plein de chouettes choses, de chouettes vidéos, de chouettes témoignages. Voilà, et je souligne quand même que c'est un projet qui est soutenu par Vivre Ensemble. Grand merci à vous Jean-François.
Avec plaisir.
Et à très bientôt sur RCF.